France Info.
Majorité requise pour l'adoption du projet de loi constitutionnel, soit les 3/5 des suffrages exprimés, 512. Pour l'adoption, 780. Contre, 72.
Voilà, ovation debout à Versailles. Après cette annonce de Yaël Braun-Pivet, il était 18h45 précisément dans l'aile du midi du château, salle du congrès. 16 ans après la dernière révision constitutionnelle, 49 ans après la loi Veil, tout ça lors d'une séance présidée pour la première fois par une femme. Et ce n'est qu'une minute 37 plus tard que Yaël Braun-Pivet a réussi, quand l'ovation s'est calmée, à dire, eh bien, le congrès a adopté. Alors l'IVG inscrite dans la Constitution pour la première fois dans le monde, défendu dans un discours d'une demi-heure par le Premier ministre Gabriel Attal.
Aujourd'hui, c'est une étape fondamentale que nous pouvons franchir. Une étape qui restera dans l'histoire. Une étape qui doit tout aux précédentes. En garantissant la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse dans notre Constitution, nous donnons une deuxième victoire à Simone Veil et à toutes celles qui ont ouvert la voie. Nous adressons surtout un message à toutes les femmes. Votre corps vous appartient et personne n'a le droit d'en disposer à votre place.
Je vais vous demander très simplement à tous votre sentiment ce soir et je me tourne d'abord vers Sandrine Simon. Bonsoir à vous.
Oui, bonsoir.
Directrice santé, plaidoyer à Médecins du Monde, vous êtes notre experte sur ce sujet. Votre sentiment général ce soir, quel est-il ?
Mon sentiment et puis le sentiment de toutes les équipes de Médecins du Monde, c'est vraiment... un sentiment de victoire, pour les femmes françaises et tout le mouvement féministe qui a lutté depuis de nombreuses années pour cela, et puis une victoire aussi pour toutes les femmes dans le monde qui nous regardent et à qui on vient d'envoyer un message d'espoir.
Victoire pour les associations, clairement, hein, sans qui même la loi Veil n'aurait sans doute pas vu le jour.
Oui, tout à fait. Et puis c'est vraiment un travail collectif de longue haleine et de nombreuses années qui a permis cela. Médecins du Monde est engagé depuis de nombreuses années dans ce combat parce que c'est vraiment une réalité qu'on rencontre au quotidien dans nos projets, la réalité des femmes, de quand ce droit n'est pas, est refusé aux femmes, les conséquences sur la santé peuvent être dramatiques.
On va en parler juste d'un mot. Vous avez suivi avec les équipes de Médecins du Monde là où vous êtes ce moment cet après-midi.
Oui, tout à fait. C'est un moment fort et ce qui nous remonte de nos équipes, que ce soit en France, que ce soit à l'international, c'est vraiment de la joie. Et encore une fois, les équipes à l'international qui, pour certaines, vivent dans des pays où l'IVG n'est pas encore légal, nous ont vraiment remercié pour tout ce message d'espoir que ça envoie.
Alors, je me tourne. Vous restez avec nous, hein, bien sûr, Sandrine Simon. Patricia Limonière, votre sentiment à vous ce soir, à l'issue de cette journée, ces discours, cette atmosphère et cette décision.
Moi, je ne vais pas rentrer du tout dans la partie politique. Je vais dire qu'en tant que femme, mais imaginant quel était le parcours des femmes avant, quand le droit à l'IVG n'était même pas accepté en France. Donc, j'ai effectivement, tout le monde l'a dit aujourd'hui, c'est un moment totalement historique. On râle souvent contre la France, on s'autocritique. Et là, pour une fois, effectivement, la France a... Et je suis fière de mon pays, en quelque sorte, ce soir. Et en même temps, je pense à toutes ces femmes, aux Afghans, aux Iraniennes que j'ai rencontrées, à toutes celles qui en Afrique n'ont pas ces droits-là, et je me dis, il reste encore vraiment beaucoup de chemin.
Lilian Alemania.
Historique, et c'était assez émouvant comme moment de voir les 1 minute 37 d'applaudissements où on voyait les visages de députés insoumises, de députés macronistes qui traditionnellement les mardis, les mercredis à l'Assemblée nationale s'invectivent, et là c'était des sourires, c'était des applaudissements, c'était un vrai moment d'union dans ce pour un droit.
C'est quasi inédit depuis le début du premier quinquennat.
Oui, c'est totalement inédit. On va en parler. C'est une vraie victoire parlementaire. C'est Patricia parlait de victoire, mais c'est un vrai combat politique qui a été mené qui a été menée par des femmes de différents courants politiques, hors Rassemblement National, il faut quand même le noter, mais elles ont travaillé ensemble, elles ont accepté de laisser la place au texte de l'autre, à le voter, elles ont accepté de faire des compromis avec la droite aussi, du côté des Insoumis, ce qui est très rare, voire quasi inédit aussi, depuis qu'ils sont rentrés à l'Assemblée nationale en 2017, pour aboutir à cette formulation de la liberté garantie pour les femmes à pratiquer une interruption volontaire de grossesse dans la Constitution.
Pardon. Henri Vernet, votre sentiment, ce que vous retenez?
Oui, alors historique, c'est vrai qu'on dit le mot souvent, disons que c'est l'aboutissement, l'achèvement d'un processus qui, lui, est historique, hein, qui était d'ailleurs rappelé par Gabriel Attal. Mais historique, et ce qui est intéressant, d'ailleurs, dans tous les débats que rappelait Lilian Alemania, c'est que, rappelez-vous, pendant longtemps, on a dit oui, non, mais attention, tout ça n'est pas tellement menacé, c'est pour le symbole avant tout, tout. Mais non, je crois que là, le grand intérêt de cette journée, de cette séance au Congrès, à Versailles, c'est justement que ça a montré à quel point c'est finalement assez nécessaire de réaffirmer, d'inscrire, de garantir, le mot est employé, ce droit, parce qu'on voit bien, on se rend compte maintenant à quel point les mentalités, je parle des mentalités de l'état d'esprit, de peuples entiers, changent avec une rapidité parfois confondante. On a cité les pays où d'abord ça reste totalement inenvisageable, mais les pays aussi où il y a des retours en arrière qui sont assez dramatiques. Eh bien, en ce sens-là, cette inscription dans la Constitution, elle est utile et je pense que là, ça a été simplement démontré. Parce que justement, il y a eu des débats et assez riches. Et c'est vrai que moi aussi, j'étais assez frappé par la haute tenue, en quelque sorte, de la séance aujourd'hui. C'est vrai que les discours étaient vraiment structurés, intéressants, émouvants, beaucoup d'émotions. Et ça tranche totalement avec ce qu'on a pu voir avec les querelles, ce qui sont normales, hein, bien évidemment, dans une démocratie. Mais là, il y avait une volonté vraiment affiché, partagé, d'arriver à un progrès. Enfin, en tout cas, à entériner véritablement un progrès. Et ça, oui, c'était impressionnant.
20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
On est ce soir en compagnie de Patricia Lémonière, grand reporter spécialiste des questions internationales, Lilian Alemania, rédacteur en chef adjoint du service France à Libé, Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien aujourd'hui en France, et Sandrine Simon, directrice santé, plaidoyer de Médecins du Monde France. Je voudrais qu'on écoute un témoignage recueilli ce soir au Trocadéro où tous les partisans de ce texte et de cette inscription de l'IVG dans la Constitution étaient réunis. C'est une militante qui s'appelle Rosane et qui est évidemment heureuse ce soir.
Une joie immense, vraiment un grand bonheur de partager ce moment historique avec toutes ces femmes et ces hommes réunis ici ce soir. Vraiment, c'est une grande victoire, comme on n'a pas souvent l'occasion d'en vivre dans les mouvements féministes. Je suis très fière de notre Parlement aujourd'hui et de toutes celles et ceux qui ont voté pour cette loi.
Sandrine Simon, alors vous disiez tout à l'heure la fierté, vous nous disiez brièvement les retours que vous aviez eus de cette journée d'un peu partout dans le monde, et je vous voyais hocher de la tête quand Patricia Lémonière parlait d'Afghanistan tout à l'heure. Je ne sais pas à quel pays vous faisiez référence, mais pour vous, et c'est pour ça qu'on avait envie de vous entendre, quand on parle de menaces encore sur cette IVG, on parlera de la France, mais dans le monde, racontez-nous un peu ce que vous faites et ce que vous voyez, vous.
Bah, aujourd'hui, c'est 40% des femmes qui vivent dans des pays où l'IVG est illégal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce droit est nié pour les femmes. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'avortements dans ces pays-là. Ça veut dire juste que l'avortement est pratiqué dans des conditions à risque pour les femmes. Et ça entraîne 39 000 décès par an et 7 millions de femmes qui sont hospitalisées et qui peuvent avoir des conséquences toute leur vie de ces avortements. Donc, tous ces décès, toutes ces conséquences sur la santé, c'est des choses qui sont complètement évitables, puisque l'avortement est un soin de santé qui est totalement contrôlé aujourd'hui et très facile à réaliser. Donc c'est vraiment ça qu'on rencontre sur le terrain. On rencontre des femmes qui sont désespérées parce qu'elles ne peuvent pas avoir accès à l'avortement. Et bien souvent aussi, c'est synonyme de discrimination. Puisque les femmes qui ne peuvent pas avoir accès à un avortement dans les pays où il est illégal, c'est les femmes qui sont les plus précarisées, qui n'ont pas les moyens, parce qu'il faut le dire aussi, il y a toujours moyen de trouver un avortement sécurisé quand on a les moyens dans le monde, mais quand ce n'est pas le cas, les femmes vont pouvoir recourir à tout un tas de méthodes qui les mettent en danger, qui mettent en danger leur santé et leur vie.
C'est excessif d'imaginer un effet d'entraînement. Il faut être évidemment très prudent, mais de ce qui s'est passé en France aujourd'hui, Lilian Alemania, au niveau international. Il y a une délégation, Yaël Braun-Pivet va à New York, à l'ONU, en fin de semaine, avec une délégation parlementaire pour raconter l'exemple français. Mais bon, voilà. Est-ce qu'on se raconte un peu des histoires en imaginant que ça puisse avoir un effet d'entraînement ou c'est réel?
Ça montre que c'est possible. Ça montre qu'un pays peut faire le choix de manière transpartisane, de modifier sa constitution pour garantir une liberté. Ça donne, enfin, la France a une voix dans le monde. Ça a une force de symbole à l'international. Et le recul américain avait une force inverse, alors qu'il a déclenché en France, qui a déclenché en France ces propositions de loi qui ont abouti à la révision constitutionnelle qu'on a connue aujourd'hui.
Henri Vernet, l'effet d'entraînement, vous y croyez ?
Moyennement. Je suis assez sceptique parce qu'on voit ce à quoi on assiste dans le monde, y compris en Europe. Il suffit, c'est pas la peine d'aller aussi loin qu'en Afghanistan. On voit bien que les mouvements sont au contraire plutôt la régression sur ce plan-là. On a assez cité la Hongrie, la Pologne, mais l'Italie. Je veux dire que depuis que... Alors, Madame Meloni, elle n'est pas... Contrairement peut-être à des choses qu'elle avait laissé entendre pendant sa campagne, elle n'a pas combattu ce droit en soi. Mais c'est vrai que sont encouragés en Italie les comportements des médecins qui ne veulent absolument pas pratiquer des IVG. Il y a des régions où c'est plus difficile qu'ailleurs. Et bref, c'est quelque chose qui c'est plutôt cette tendance-là. Et puis on a bien vu aujourd'hui même le communiqué du Vatican, la déclaration du Vatican, qui quand même a de l'influence. Vous disiez la voix de la France porte, oui, mais celle du pape, du Vatican, elle porte aussi dans bien des pays, et justement des pays où ça peut être, enfin où l'IVG, l'avortement est interdit. Donc non, autant c'est vrai qu'il y a eu, la France a eu ce rôle-là dans l'abolition de la peine de mort, ça assez clairement. C'est-à-dire que assez tardivement d'ailleurs, elle a aboli la peine de mort. Mais une fois que ce mouvement a été lancé, c'est vrai qu'il y a eu un côté pour le coup un petit peu messianique et qui a pu fonctionner et que tout récemment.
Et qu'on a observé en combien, enfin, quels ont été les pays derrière qui, je ne sais pas si vous avez en tête.
Alors il y a eu exactement, il y a eu ce phénomène-là. Et il y a eu surtout l'inscription, enfin, il y a des textes internationaux qui sont prononcés contre la peine de mort. Bref, il y a eu cet effet. Pour l'avortement, dans le climat actuel dans le monde, non, je suis plutôt réservé.
Ça donne de l'espoir.
Il y a l'Europe qui a un projet aussi quand même. Donc je pense qu'on ne peut pas nier que c'est une lumière quand même qui s'allume. Et si l'Europe derrière embraye, malgré tout, c'est encore un autre palier. Et quand on voit, effectivement, je suis entièrement d'accord avec vous, effectivement, comment les États, il suffit d'un rien pour que tout bascule dans l'autre sens, les États-Unis, 14 États aujourd'hui qui abolissent totalement l'avortement et 7 autres avec des restrictions. Alors qu'avant 2022, eh bien, effectivement, l'accès, en tout cas, à l'avortement était en théorie autorisé sur tous les États. Donc, il suffit d'un rien. Et je crois que même sur le texte qui était adopté aujourd'hui, je pense qu'on y reviendra, il faut encore être prudent. Parce qu'on peut avoir, il peut y avoir des entraves même par rapport au texte voté.
Vous parliez de l'Europe. Je ne sais pas si vous faites référence à ce que Mathilde Panot évoque aujourd'hui et elle annonce dès aujourd'hui le dépôt d'un texte pour enjoindre le gouvernement de faire inscrire ce droit dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
C'est de ça dont je voulais parler. Et aussi, au sein de l'Europe, il y a un courant aussi qui veut participer à ce mouvement.
Alors, c'est vrai que cette inscription dans la Constitution ne règle sans doute pas tout. Et parmi les prises de parole, avec tout l'enthousiasme qu'on a pas mal décrit, mais on va écouter par exemple Laurence Rossignol, qui parmi d'autres dit le combat continue.
Qu'allons-nous faire maintenant ? Les féministes vont-elles enfin partir en vacances ? Ne rêvez pas. Eh bien non, nous allons continuer. Nous allons d'abord continuer pour toutes les femmes, ces centaines de millions dans le monde qui n'ont pas notre chance et n'ont pas accès à l'avortement. Nous allons continuer pour celles qui résistent, à Trump, à Bolsonaro, à Orban, à Milei, à Poutine, à Giorgia Meloni. Mais sans oublier bien sûr dans cette liste, celles qui résistent aux mollahs et aux dictateurs théocratiques.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Avec Patricia Alemanière, Henri Vernet du Parisien, aujourd'hui en France, Lilian Alemania de Libé, et Sandrine Simon de Médecins du Monde. Lilian Alemania qui a eu un œil très attentif pendant l'extrait sonore qu'on entendait.
Oui, je disais que Laurence Rossignol, sénatrice socialiste, qui a fait ses classes à l'UNEF, dans son discours qu'on a vu, elle parle d'abord de l'extrême droite, elle fait une pause, tout le monde se lève, sauf l'extrême droite. Justement, elle parle.
Extrême droite en Europe.
En Europe, et surtout Bolsonaro au Brésil, Milei en Argentine, Trump aux États-Unis. Et puis après, elle dit, nous n'oublions pas les femmes, notamment en Iran. Et là, l'extrême droite se lève pour bien montrer la différence que fait dans le droit des femmes l'extrême droite française.
Sandrine Simon, je rappelle que vous êtes directrice santé plaidoyer chez Médecins du Monde. L'effet d'entraînement dont on parlait juste avant la pause, vous y croyez? Et comment ça peut se manifester et où?
Le collègue avait raison de dire que les mouvements anti-droit, anti-choix prennent beaucoup de force et on le voit au quotidien avec même des entraves dans nos actions dans certains pays. Mais néanmoins, je pense que ce sentiment d'espoir qui est partagé au sein de la communauté féministe à travers le monde, il est important. Et puis, par ailleurs, on attend aussi la France, qui a une politique féministe, diplomatique féministe, peut-être aussi de pouvoir renforcer ces mouvements à l'international, à travers un certain nombre de financements. Je parle bien des mouvements en faveur du droit à l'avortement. Aujourd'hui, la France finance un certain nombre d'associations féministes à travers le monde, dans les pays où ce droit est nié. Et c'est des associations que nous, on accompagne par ailleurs pour pouvoir les renforcer à différents niveaux. Donc, c'est aussi ça ce que peut faire la France au-delà de renforcer le droit dans notre pays. Mais oui, les forces sont contraires et ce n'est pas évident, mais au moins, c'est un espoir qui est donné pour toutes les personnes qui luttent pour ce droit à travers le monde.
En France, quand on entend 130 centres IVG fermés en 15 ans, je crois, des plannings familiaux, etc., vous intervenez aussi sur le territoire national. Le manque de moyens, ça aussi, c'est un vrai frein, une vraie inquiétude sur la pratique et la liberté d'avorter pour les femmes.
Oui, tout à fait. C'est effectivement nos collègues aussi du planning familial pâtissent d'un certain manque de moyens et nous-mêmes. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, l'avortement en France, les chiffres montrent que les femmes les plus précarisées ont recours plus facilement à l'avortement. Alors pas qu'elles veuillent avorter plus que les autres, mais parce qu'elles ont moins accès à l'information, moins accès à l'éducation, moins aussi accès à la contraception. Il faut savoir par exemple que les femmes que l'on rencontre dans nos centres d'accueil et de soins et d'orientation, qui sont des femmes en situation de précarité importante, 9 sur 10 femmes qui devraient avoir accès à la contraception n'y ont pas accès. Donc des femmes en âge de procréer et qui ne souhaitent pas avoir un enfant à ce moment-là n'ont pas de contraception. Soit parce qu'elles n'ont pas accès à la couverture maladie et donc pas accès à la contraception gratuite, soit par manque d'information. Voilà, donc c'est tout un tas de facteurs aussi qu'il faut prendre en compte. Et c'est aussi ça que ce débat public autour de l'IVG qu'on a ces derniers jours peut permettre de renforcer, parce que si les femmes ont aussi accès à cette information par ce débat, on espère que ça va pouvoir les amener à avoir plus recours aux soins.
Quel regard vous avez autour de la table sur le danger, le risque avec des situations politiques qui peut évoluer en France, mais à Lilian Alemania?
Si une situation politique évolue, on ne peut plus modifier les choses par la loi, puisque c'est garanti maintenant dans la Constitution. C'est d'où le grand progrès aujourd'hui. Maintenant, il faut que le droit soit effectif. Et aujourd'hui, sur les 5 dernières années, 130 centres IVG en France ont fermé. Certains départements, notamment avec l'allongement de la durée de 12 à 14 semaines. On a un reportage aujourd'hui dans Libération en Aveyron où les femmes qui sont entre 12 et 14 semaines ne peuvent plus se faire avorter en Aveyron. Elles sont obligées d'aller à Toulouse, d'aller à Montpellier. Donc il y a des freins et il faut arriver à lever ces freins pour permettre à ce que cette liberté soit vraiment effective.
La suite, c'est quoi pour vous? On parle d'abroger cette double clause de conscience, par exemple, des médecins. Ça. Quand je dis on parle, c'est le groupe LFI qui, là aussi, veut avancer là-dessus.
Alors là, je pense que sur ce terrain-là, Les médecins, d'abord, c'est un vrai poids. Hein. Ils ont une force politique aussi et ils sont très attachés à ce droit-là. Et donc,
c'est-à-dire de pouvoir se rétracter,
ce droit, oui,
de ne pas pratiquer.
Ils ont deux droits essentiels, hein, qui effectivement de ne pas pratiquer. Hein, si ça va à l'encontre, effectivement entre guillemets, de leur conscience, mais ils ont aussi l'obligation de soigner. Ils ont, en échange de ça, une obligation. Là, c'est pas un soin. Enfin, c'est pas considéré pour l'instant comme un soin, mais ils sont dans l'obligation de soigner. Alors, peut-être qu'avec c'est le serment, hein, qu'ils prêtent, hein, quand ils deviennent médecins. Peut-être que par ce biais-là, on peut effectivement leur tordre le bras. Mais je crois qu'ils se battront jusqu'au bout parce que pour eux, c'est très important, cette liberté de conscience qu'ils ont. Et ils représentent un vrai poids politique.
Enfin, la liberté de conscience, elle a été rappelée par le Conseil constitutionnel.
Voilà. Et en plus, elle était rappelée par le garde des Sceaux qui a insisté là-dessus très, très fortement.
Ah, oui, sinon, ils n'auraient pas eu le vote de la droite, d'ailleurs.
Sinon, il n'y aurait pas eu
le condition sine qua non pour avoir le vote des LR.
Il n'y aurait pas eu de vote.
Mais de toute façon, enfin, est-ce que réellement il faudrait légiférer là-dessus? Moi, je suis pas trop sûr. Enfin, bon, c'est un débat qui demanderait vraiment être posé et de long développement. Mais enfin, la liberté de conscience, c'est quand même aussi, tous les pays ne l'ont pas. Je veux dire que c'est quand même aussi pour le coup, une garantie de liberté.
C'est aussi ce qui a fait d'ailleurs, qui a permis à la loi d'être adoptée.
Mais oui, exactement. Et donc ça, il faut pas non plus l'oublier. Il faut pas tomber dans un excès qui serait de légiférer et d'obliger sur absolument tout.
Et en même temps,
laisser sa part aussi à l'individu, quoi. Certains, quand même, certaines libertés.
Non, le problème, je pense, aujourd'hui, c'est la contraception, qui n'est pas du tout assez généralisée et expliquée, et puis l'accès. C'est-à-dire, effectivement, les déserts médicaux où il n'y a pas du tout l'accès pour les femmes en ce qui concerne la France.
Je voudrais votre avis là-dessus, Sandrine Simon, vous qui pratiquez tout et voyez ça de très près sur le terrain.
Oui, tout à fait. Vous parliez de l'objection de conscience pour les médecins, mais les médecins ont l'obligation d'accompagner les femmes dans leur choix, c'est-à-dire de les référer vers un confrère qui serait en mesure de les accompagner.
C'est pratiqué, ça, c'est
extrêmement important.
C'est le cas.
Ça devrait l'être. En tout cas, je n'ai pas forcément d'informations très précises là-dessus. La problématique, c'est quand des structures de santé n'ont pas de médecins qui peuvent qui pratiquent. Et là, les structures de santé sont dans l'obligation de pouvoir proposer. Après, il y a aussi la question de pouvoir. Il y a plein de choses qui sont possibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on expérimente, notamment dans les pays où, dans différents pays, où on intervient, la possibilité de donner toute l'information aux femmes pour qu'elles puissent elles-mêmes, dans une démarche d'auto-soin, recourir à l'avortement avec toutes les informations, notamment l'avortement médicamenteux. Il y a aussi d'autres, les sages-femmes peuvent accompagner aussi sur ces questions d'avortement. Donc il y a aussi la possibilité, je veux dire, d'élargir les possibilités d'accès pour les femmes. Et en tout cas, dans toutes les situations, l'accès à l'information est extrêmement essentiel. Et ça, à tous les niveaux. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut renforcer aujourd'hui.